Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Roman fantastique, roman gothique, fantasy, baroque, chacun choisira le genre auquel on peut attribuer ce roman qui possède aussi des bases historiques. Ouvrons donc notre esprit, notre curiosité à ce qui passionne une bonne partie de la jeunesse et pas seulement car oui, ce genre plaît beaucoup. Il suffit de se référer aux réseaux sociaux. Harry Potter a su toucher les plus jeunes et celui-ci plus complexe peut être considéré comme un conte merveilleux dans le sens littéraire du terme, mais aussi comme une réflexion sur les fondements de nos valeurs, de notre morale. Le cloître des vanités, le titre de cet ouvrage édité par la maison d'édition Crin de Chimère, et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur Manon Ségur. Manon Ségur, bonjour.
Bonjour Monique.
Et oui, c'est un grand plaisir d'avoir un auteur aussi jeune dans notre studio et auteur d'un ouvrage relativement important. Je parle en pages, après il est important. Écoutez, c'est drôle parce que j'abordais cet ouvrage en toute innocence quand j'ai découvert un genre qui m'était absolument étranger. Et alors, j'ai désiré partager cette découverte avec nos auditeurs qui trouveront des thèmes familiers. Il y est question d'Occitanie, d'église, de catharisme, d'anges et de démons.
Tout à fait.
Voilà. Alors, vous avez, je sais, reçu un accueil très chaleureux et votre jeune âge augure d'un bel avenir littéraire. C'est un premier écrit, je suppose.
Alors, ce n'est pas le premier que j'écris, mais c'est le premier que je parviens à faire publier en maison d'édition. Donc, on peut le compter, oui, en premier roman.
Alors, écoutez, j'ai reçu récemment, enfin, la semaine dernière, un monsieur qui était nettement plus âgé que vous. Bon, il avait une cinquantaine et... Lui était dans le même cas que vous. C'était son premier ouvrage, mais il avait écrit auparavant. Bon, alors oui, alors vous avez 24 ans, et je pense en effet que ça augure un bel avenir littéraire. Alors, est-ce que votre ouvrage tient au fait que vous avez eu Harry Potter au biberon ?
Alors, oui et non, parce que je pense qu'effectivement, notre génération a été... pas élevé, mais on va dire, on a tous baigné dans cette culture un peu Harry Potter. Alors moi, personnellement, j'aime énormément Harry Potter, j'aime énormément ses messages, même si l'autrice commence sérieusement à me fatiguer pour d'autres raisons. Mais je pense qu'on a aussi un désir d'aller vers des nouvelles choses et un peu de redécouvrir ce qui plaisait au 19e et ce qui plaisait au début du 20e siècle, c'est-à-dire une sorte de merveilleux un peu romantique. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens de mon âge sont intéressés par ce type de littérature.
Alors, nous sommes au XIIIe siècle. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel historique ? Au XIIIe siècle, nous sommes en Occitanie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe en Occitanie ?
Ben, en Occitanie, donc, on a cette religion qui est une sorte de... on ne va pas dire secte, mais qui est une sorte de groupuscule qui s'est formé à partir du christianisme, parce que le catholicisme commençait déjà à exagérer niveau pouvoir, richesse, argent à cette époque. Et le catharisme, c'est une forme peut-être plus pure et en même temps plus libre de la religion, même si les parfaits et les parfaites, qui étaient plus ou moins les religieux donc du mouvement cathare, vivaient une vie extrêmement austère.
Beaucoup de contraintes quand même. Hein.
Beaucoup de contraintes, en effet. Mais après, il y a aussi une certaine liberté qui était absolument impensable dans l'Église catholique de cette époque. Par exemple, traduire la Bible en langage vernaculaire, laisser les femmes officier au moins pour certains rituels, etc.
Oui, alors c'est vrai qu'ils se veulent plus proches de la chrétienté primitive. Mm-hmm. Et en respectant l'idéal de vie de la pauvreté du Christ, et j'ai pensé qu'à cette époque-là, il y avait les moines prêcheurs,
oui.
Et il y avait entre autres justement ceux qui sont très chers à mon cœur, ce sont les franciscains.
Ah oui, les franciscains.
C'est à cette époque-là hein, qu'ils ont...
Exactement, oui, c'est au tout début du XIIIe siècle qu'ils ont été fondés, oui.
Voilà, d'ailleurs, dans votre livre... Vous mentionnez cela.
Oui, les frères prêcheurs.
Voilà, je crois que c'est dans la quand il s'agit de remplacer l'évêque,
oui,
Monseigneur Foulque. Voilà. Alors, vous parlez de l'abus du pouvoir de l'Église romaine, c'est vrai, la richesse ostentatoire. Mais je peux dire, si vous permettez, que également l'aristocratie occitane et la bourgeoisie naissante voulaient garder leur pouvoir et leurs biens également.
Absolument, hein. Absolument, oui.
Et alors, en Occitanie, pour le rappeler à nos auditeurs, si vous le permettez, il y avait quand même, la langue occitane était toute puissante, il y avait que celle-là. Seules quelques personnes, justement, de haut niveau pouvaient parler français, mais encore, la langue d'oc était utilisée dans tous les milieux cultivés européens. Ça, c'est assez extraordinaire. Et on peut regretter que ce ne soit plus le cas.
Tout à fait.
C'est une Toulousaine qui parle. Et la France et la capitale, Paris, donc, sont loin, enfin, je ne sais même pas si c'était Paris, sont loin des seigneurs locaux. Et l'Occitanie veut garder son indépendance et son pouvoir. Et ça, c'est très intéressant également. Et on le retrouve dans votre ouvrage, d'ailleurs. Vous en parlez et vous le faites comprendre. Voilà. Donc, voilà ce petit rappel historique quant à l'état des lieux, parce que la France, dans le fond, à ce moment-là, est plutôt petite, alors que l'Occitanie est quasiment de la même étendue, puisque ça va jusqu'à la Provence et jusqu'en Espagne, dans la partie catalane, la Catalogne. Hein, voilà.
Oui, tout à fait.
Mais revenons à votre ouvrage. Alors, ce qui m'a frappé d'emblée, dans la forme, je dirais, beaucoup de documentation sur l'architecture, les églises et les cathédrales. Alors là, des descriptions remarquables hein, de la région. Évidemment, on évoque beaucoup d'églises et ça fait plaisir de se reconnaître. Il faut reconnaître qu'on est gâté en matière d'architecture d'église. Quand vous parlez également des coutumes, de ce qui se fait, de ce qui se dit, des costumes, descriptions également très intéressantes des costumes. Je vais être curieuse, comment avez-vous procédé pour tout cela ?
Alors, pour les costumes, je me suis fait aider d'une amie qui est costumière et qui est spécialisée justement dans le costume historique. Parce que aussi, je voulais avoir ces descriptions de beaux habits, de beaux ouvrages, parce que c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup quand je lis des auteurs du 19e, par exemple Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui fait d'énormes descriptions de costumes absolument somptueux. Et alors, pour les cathédrales et les églises, je pense que ça transparaît dans le livre, mais j'ai une énorme, absolument immense passion pour l'architecture gothique.
Ah oui.
Et en particulier l'architecture gothique de chez nous, que beaucoup appellent un peu à tort architecture méridionale. Alors là, il va pas falloir me lancer, parce que sinon, on est là pour longtemps. Mais depuis que je suis toute petite, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'ai donc cette passion pour l'architecture
alors,
religieuse.
Serait-ce à dire que Saint-Cernin ne trouve pas grâce à vos yeux, parce que c'est pas du gothique, là ?
Alors, Saint-Cernin, c'est assez compliqué, parce que j'aime aussi énormément le roman, je vous rassure.
Ah bon ?
Et Saint-Cernin, il y a beaucoup d'éléments de gothique, parce que le chantier a duré très très longtemps, à une époque où on construisait déjà du gothique.
Ça a évolué, oui.
Voilà. Et il y a aussi la crypte gothique de Saint-Cernin qui me plaît énormément et qui a inspiré un endroit assez important dans le livre, d'où le nom de mon protagoniste.
D'accord, oui. Alors, justement, des passages très intéressants à lire. Intéressant parce qu'on apprend des choses également. Alors, le lieu, c'est Albérac. Je pense que c'est une petite ville occitane qui n'existe pas.
Non, non,
mais c'est un mélange. C'est un mélange de plusieurs choses, j'imagine.
Oui, c'est un mélange, en fait, de... Alors, je l'ai pensé comme un mélange, évidemment, d'Albi, un peu Rodez et beaucoup de Narbonne. Parce que je trouve que Narbonne est une ville médiévale extrêmement intéressante, sur laquelle les gens ne reviennent pas beaucoup, alors qu'il y a un évêché magnifique, une cathédrale extrêmement intéressante, la basilique Saint-Paul-Saint-Serge, qui est très mystérieuse et qui a une ambiance particulière. Et donc, c'est un mélange un peu de ces villes très importantes d'Occitanie de l'époque. Parce que j'avais envie de pas me couper des... Je ne voulais pas me limiter en matière d'architecture et de recherche historique, donc j'ai voulu faire plutôt un mélange et créer une ville représentative de ce qu'elle était l'époque, plutôt que me focaliser sur une ville réelle et me compliquer davantage la tâche.
Alors justement, j'aimerais que vous nous laissiez un passage qui concerne le personnage central dont nous parlerons ensuite. Un passage qui commence à la page 36 et Voilà, si vous voulez bien.
Il s'était énormément amusé avec le cloître et le reste du piège. Les adapter chaque nouveau siècle le divertissait encore plus que les plus délicieux des repas. À l'aube des temps, il avait laissé les siens et avait fait son nid dans une vallée, ni trop grande ni trop petite. Il ne possédait alors qu'une minuscule cour et il charmait ceux qui passaient par là avec des histoires et des tours de passe-passe. Il ne les tuait pas tous. Il en dévorait certains, mais en aidait d'autres pour qu'ils commencent à lui construire une ville. Il avait manipulé afin qu'elle soit conforme à ses idées, jolie, mais labyrinthique et complexe. Pour avoir un flux de victimes constant, il avait fait en sorte qu'elle accueille des foires, des marchands de passage et beaucoup de voyageurs. Il avait aussi tenu à ce qu'elle favorise des inégalités, mais pas trop. Il avait fait s'élever les seigneurs locaux sans qu'ils le sachent pour qu'ils écrasent les plus pauvres sous eux. Mais s'ils étaient trop maltraités, cela ne cultiverait jamais des désirs déraisonnables et ne pourrait donc jamais se perdre chez lui. Il fallait se montrer extrêmement précis dans le dosage. Sous les Romains, son cloître ressemblait à un atrium. Sous les barbares, il était pareil à un palais entourant des thermes. Et puis, petit à petit, il avait gagné sa forme actuelle. Enfin, Cernin s'était retiré des manigances pour en savourer les fruits. Il avait laissé la politique des hommes suivre son cours. Albérac devenait une charmante ville, merveilleusement compliquée, comme il s'y était attendu. Elle se plaçait sous l'autorité des comtes de Toulouse et possédait des vicomtes généralement éclairés. Depuis que la secte des bons hommes, aussi appelée purs, tisserands, albigeois et cathares par ceux qui les haïssaient, avait gagné en célébrité, il faisait tout pour la protéger. Il craignait que les Français ne profitent de leur nouvelle croisade pour mettre la main sur leur territoire, anéantissant au passage une partie de leur culture et de leur langue. Ils étaient tolérants, donc porteurs de guerre. Ils étaient riches aussi, donc prompts à faire déferler les envieux. Ils avaient l'air parfaits pour le service d'un démon.
Voilà un extrait de votre ouvrage. Merci, merci Manon.
Merci à vous.
Alors, il y a trois événements qui ponctuent votre roman, du moins une bonne partie de votre roman, des événements. Mmh. Et il n'y aura pas que cela, évidemment. Il y a l'inauguration d'une cathédrale, enfin construite. Et vous décrivez fort bien le faste de l'inauguration, la liesse et la beauté de la cathédrale. Alors là, si vous permettez, je vais peut-être moi lire un petit extrait. Voilà. Alors, Saint-Joseph était honnêtement une très belle et même une très belle, était honnêtement très belle. Et même lui se devait de le reconnaître. Elle allait au-delà de tout ce qu'il avait imaginé en dévorant quelques ouvriers. Elle alliait l'aspect massif d'une forteresse et les délicates couleurs d'un plumage d'oiseau. Elle aurait pu monter un peu plus haut, mais ça aurait nécessité des arcs-boutants très développés. Les églises de la région utilisaient plutôt des contreforts très droits, très verticaux. Pour contrebalancer ce manque d'ambition, les articulations autour des portails, les galeries environnant les chapelles du déambulatoire, les gargouilles, les petits arcs, les pourtours, les verrières, et encore d'autres détails sur lesquels il ne s'attardait pas lui-même, semblaient tous sculptés avec amour et patience. Les vitraux du chevet et les chapelles basses montaient avec l'étroitesse d'un corps affamé, comme d'immenses meurtrières habillées de verre coloré. Très belle description chaque fois. Je suis étonnée, vraiment, c'est un plaisir de lire ces passages en particulièrement porteurs de, disons qu'on visualise aussi, voilà. Alors, il y a donc l'inauguration et on voit la liesse du monde. N'oublions pas qu'à cette époque-là, tout le monde était chrétien.
Mmh, absolument.
Il y a également... c'est là où on va rencontrer le vicomte, le comte, on va rencontrer l'évêque Foulc, Monseigneur Foulc. Alors, je ne sais pas si c'était Monseigneur Foulc, je pense que oui. Mm-hmm. Et alors, lui est un personnage très sympathique, mais qui est âgé, qui est très tolérant, qui est très... qui essaie de ménager tout son monde. Les yeux de Foulque brillaient aussi en les voyant jouer, libres de toute responsabilité. Il parle des enfants, le poids des années creusait de plus en plus son corps maigre et nerveux. Le peu de cheveux survivants sous la mitre brodée d'or prenait une nouvelle teinte de blanc chaque nouveau jour et son dos lui faisait souffrir le martyre. Mais il était tout de même satisfait d'avoir achevé l'œuvre curieusement rapide de sa vie. Il n'aurait jamais cru de ses yeux voir de ses yeux le jour où la cathédrale Saint-Joseph serait sanctifiée et offerte au culte. Voilà cet homme qui va mourir. Et donc là, nous assistons à des obsèques. Alors, inauguration, obsèques, deux manifestations très importantes, mais évidemment dans une toute autre atmosphère, puisque vous décrivez l'affliction générale. Il est aimé, cet homme ?
Oui, il est aimé, tout à fait. Ben, c'est un évêque qui est représentatif de, ben justement, des mouvements dont on parlait, des mouvements de frères prêcheurs et de religieux qui commençaient à essayer de suivre, pas cette mode, mais cet idéal de retour à la pauvreté et d'aide au service qui, au Moyen-Âge, n'était pas forcément très évident. Et c'est ce que je voulais montrer. Je voulais aussi un personnage qui soit réellement profondément croyant et pas un homme là pour la simonie et la manipulation.
Oui, et justement, sa mort va mettre les décideurs de la ville dans l'embarras, parce qu'il faut le remplacer.
Tout à fait, et ça va créer un petit vide politique et religieux qui va créer bien des ennuis au vicomte.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir affaire aux Français.
Tout à fait.
Et il y a quand même, il y a aussi ce dont je n'ai pas parlé, il y a l'arrivée assez importante d'Albigeois.
Oui, il y a une troupe d'Albigeois donc, qui fuit la croisade, qui vient se réfugier dans les murs de la ville. Et c'est ce qui va créer, je pense, la plupart des ennuis qui occupent notre héros. Enfin, protagoniste, je ne sais pas
héros. On va parler du personnage central. Mm-hmm. Avant, j'aimerais que vous nous disiez un mot de celui qui règne sur les lieux, le seigneur des lieux, c'est Roger.
Roger.
Voilà, alors lui, comment peut-on en parler, c'est le vicomte donc d'Albéric, puisque c'est le nom de la ville, hein, c'est Albéric, oui, c'est ça.
Albéric.
Et tout, en fait, les habitants avaient la chance d'avoir à la fois cet évêque et Roger comme seigneur, puisque c'était des gens plutôt tolérants, plutôt paisibles.
Oui, ben, il faut dire que la plupart des seigneurs de cette époque pouvaient être assez, dirons-nous, éclairés, surtout ceux qui étaient sous l'autorité du vicomte de Toulouse. C'était une cour où il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de tolérance, c'est pour ça qu'il protégeait pas mal les cathares. Et donc Roger, c'est un homme qui a été élevé là-dedans, un homme très raffiné, qui est assez gentil, qui est même une personne profondément bonne, mais qui souffre de problèmes personnels. Et donc les gens de la ville ont de la chance d'avoir Roger au-dessus d'eux. Et en même temps, Roger peut se révéler aussi un petit problème quand il se sent triste et désespéré.
Oui, alors oui, quand vous dites qu'il protège, alors les habitants, en fait, ils protègent la culture occitane, on sent ça dans votre ouvrage, et puis l'autonomie des habitants, parce qu'en fait, on sait que contre les Albigeois, il y a les croisés. Or, les croisés sont essentiellement des Français,
oui,
pour la plupart. Donc, si les Français entrent, les croisés, c'est-à-dire la plupart des Français, entrent en pays cathare, c'est vraiment, occitan, c'est vraiment une intrusion d'étrangers.
Oui, et une intrusion culturelle et qui symbolise la perte de nombreuses libertés.
Oui, alors en vous lisant, ça m'est revenu à l'esprit, c'est qu'effectivement, pour les Occitans à cette époque-là, ce qu'on appelait les Français, étaient des étrangers.
Mmh, tout à fait, oui.
Ouais. Alors, le personnage principal. Alors, nous y venons. Cernin, pourquoi ce nom ?
Eh bien, Cernin, alors, ça va vraiment se sentir que j'aime beaucoup les églises occitanes. Cernin, c'est très bête. C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été beaucoup inspirée par la crypte de la basilique Saint-Cernin, donc cette magnifique basilique que nous avons la chance d'avoir à Toulouse, pour un des lieux les plus mystérieux du livre. Et je cherchais vraiment... à la base, je l'avais appelé juste le démon. Et je cherchais vraiment un nom occitan, ancien, mais pas trop courant pour représenter cette créature de plus en plus humaine, mais qui reste quand même mystérieuse et obscure. Et donc, je trouvais que Cernin, ça avait vraiment quelque chose de... Comme ça me rappelait la basilique, ça avait quelque chose de très ombragé, de très vaporeux.
Voilà. Alors, comme vous le dites, c'est un démon.
exactement.
Ça a été un ange ?
Ah, ça peut-être, peut-être pas.
Peut-être pas, en tout cas déchu.
Ça, c'est sûr.
Ses caractéristiques étant la vanité, la superficialité, le mensonge.
Oui, c'est un être absolument charmant et très, très fréquentable, comme vous vous en êtes rendu compte.
Oui, un séducteur en quelque sorte.
Ah oui, c'est totalement un séducteur. Il a vraiment l'aspect séducteur qu'on prêtait au diable et aux démons de cette époque, presque un côté vampirique, comme on peut le voir dans la littérature du 19e, etc. Vraiment cet aspect sombre qui se sait, qui s'assume et qui va essayer de tirer les âmes désespérées jusqu'à lui en utilisant tous les moyens possibles. Et c'est en plus une personne assez élégante et qui le sait.
Oui, raffinée même.
Très raffinée.
Alors machiavélique, sans pitié, que ce soit avec les vieux, les jeunes, les isolés, les handicapés même, et même une albigeoise. Alors, on va voir comment il s'y prend, mais avant, nous allons faire une pause musicale. Alors, Manon Ségur, est-ce que vous pourriez nous dire de quel genre de pause musicale il s'agit ?
Alors, là, il s'agit d'une des musiques qui m'a inspirée pour l'ambiance du livre, parce que je m'inspire toujours énormément de musique, et plus précisément de musique sacrée dans ce contexte-là. Et je voulais faire résonner vraiment le côté sombre et puissant des chants religieux et des chœurs. Et donc là, je vous propose Adiemus de Carl Jenkins, qui est un de mes compositeurs favoris, et qui est une musique, donc, il me semble, en langue, donc une langue qui n'existe pas, mais qu'on prête aux anges, et qui a vraiment un côté profondément mystique, voire ésotérique.
D'accord.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Manon Ségur qui vient nous parler de son roman « Le cloître des vanités » paru aux éditions Crainte de chimère. Quand je dis roman, c'est un roman très particulier, un roman gothique, mais finalement nous sommes en période d'Halloween. Ça n'a pas trop à voir, mais peut-être que si finalement. Un roman baroque, un roman très intéressant parce qu'il s'inscrit dans une période très intéressante, le XIIIe siècle, et dans une région ô combien intéressante puisque nous sommes en Occitanie. Le personnage principal est Cernin qui est un démon. Ce démon, il est courtois, il est charmeur, il est élégant, il est beau juste ce qu'il faut, il est bien habillé. Qu'est-ce qu'il représente selon vous ?
Alors, Cernin, en même temps, il représente, je dirais, la vieille figure du démon qu'on a l'habitude de voir dans des médias comme, par exemple, Les Visiteurs du Soir, le célèbre film.
Oui, tout à fait. Un très beau film, d'ailleurs.
Très, très beau film qui m'a beaucoup inspirée, d'ailleurs. Aussi, toutes les figures un peu faustiennes du 19e siècle qui me plaisent énormément, donc cette littérature très romantique, très sombre. Et en même temps, c'est le véritable démon médiéval qui est dans la séduction constante pour pousser vers le mal, et vers la perdition, dirons-nous.
Alors, je me suis interrogée, vous voyez, en réfléchissant, en lisant votre livre, parce que dans le fond, n'est-il pas l'incarnation du mal qui est en chacun des êtres à qui il va s'adresser?
Si, tout à fait. C'est ce qu'il utilise de toute façon pour séduire ses victimes, et il sait pertinemment que c'est là sa force. En fait, il utilise tout ce que nous avons de pourri et de dégri au fond de nous pour faire disparaître petit à petit la lumière. Donc je ne sais pas s'il le représente, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il utilise.
Oui, et moi j'aurais tendance à dire qu'il est le mal qui est en eux. Quand vous dites qu'il utilise, alors quels sont ses critères finalement ?
Alors, Cernin a une méthode de chasse, puisqu'il se considère comme un chasseur, très particulière. Parce que, alors, il a l'impression, lui, de rendre un service à l'humanité, qu'il ne déteste pas, bien au contraire, l'humanité lui est très profitable, c'est son bétail. Il isole les personnes les plus désespérées, les plus perdues, qu'il considère comme des éléments pourris de la bête humaine et qu'il peut saisir à son loisir pour lentement les dévorer. Et c'est en utilisant leurs illusions les plus profondes et les plus bêtes ou justement les plus déchirantes qu'il va les amener à lui et donc à ce fameux cloître des vanités.
Oui, alors il a tendance à viser ceux qui ont en eux une forme d'ambition, de l'envie, de la rancœur, des choses qui ne sont pas très, très positives quand même.
Non, pas du
On
tout.
Peut pas
il,
dire.
Il utilise vraiment le négatif et c'est pour ça qu'il a l'impression de rendre un service à l'humanité, parce qu'il se dit qu'il utilise exactement les individus les moins utiles à la société. Et c'est un petit mensonge qu'il se fait pour se donner bonne impression.
Oui, c'est-à-dire qu'il a décidé d'être le justicier.
Voilà, il a l'impression d'être une sorte de, j'en sais rien, de Batman des temps anciens.
Ou un Clint Eastwood ancien.
Ah oui, un Clint Eastwood, oui, tout à fait. Il a un peu le genre.
Voilà, alors comment les attire-t-il? C'est là où on trouve qu'il est machiavélique quand même, parce qu'il change de forme déjà.
Oui, il peut changer de forme, tout à fait.
Et il change beaucoup de choses aussi, pas que son aspect.
Alors, Cernin, en quelque sorte, c'est un peu une sirène, parce qu'il utilise différentes armes qui vont attirer donc, ces gens très désespérés jusqu'à lui et à ce fameux cloître qui est un piège horrible.
Et mais nous sommes en période d'Halloween, vous pouvez y aller.
Je peux y aller, voilà. Donc, il utilise des chants, ou bien des odeurs, ou bien des sensations pour attirer ces gens qui se sentent complètement perdus. Il va les emmener jusqu'à cet endroit qui a l'air, de prime abord, absolument féerique et merveilleux. Ils vont s'y retrouver enfermés, et s'ils ont le malheur de tomber dans son puits, il se retrouve dans une situation assez inextricable, inextricable au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortiront pas et ils ne s'en sortent pas, c'est impossible. Il se retrouve captif de la bête qui a des méthodes de torture et de pour se nourrir qui sont plutôt abjectes.
Oui, en fait, il utilise même les cloches, cet homme machiavélique, enfin cet homme. Est-ce un homme ? On ne sait pas. On le verra plus tard, cela. Il change d'apparence, y compris ses mains. Oui. Mais ses mains, surtout, d'ailleurs.
Surtout
qui peuvent
mains,
être
oui.
griffues.
Mmh.
Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que son discours change en fonction de ses victimes.
Tout à fait. De toute façon, il s'adapte à chacune de ses victimes pour mieux les torturer, mieux s'amuser avec leurs regrets et leurs désirs. Parce qu'une fois que les victimes sont capturées, le désastre ne s'arrête pas là, bien entendu. Il faut s'amuser avec elles. Il faut les mener au fond du fond pour mieux les dévorer.
Alors, je vous arrête parce que là, nos auditeurs vont être inquiets. Quoi ? Est-ce un carnivore ? Est-ce que c'est un ogre ? Il les dévore symboliquement.
Oui, il ne dévore pas leur chair, il ne dévore même pas leurs âmes,
même, oui.
mais il les vide de tout ce qui fait leur substance. Donc il les vide de leurs regrets, de leurs joies, de leurs peines, de leurs souvenirs. Et il va se rendre compte que pour certains des captifs, même s'ils considéraient que c'était là une horrible punition et une atroce façon de les tuer, ça peut être une sorte de service.
Alors, c'est un collectionneur d'âmes. Effectivement, il ne détruit pas les âmes, il les garde. Pourquoi ?
Parce qu'il les apprécie, parce qu'il a un côté très esthète et en même temps, il apprécie réellement profondément l'humanité, même s'il sait qu'elle a des défauts et qu'il joue de ses défauts, parce que c'est avant tout une créature qui est solitaire et qui est mélancolique et au fond qui aime, je pense, la compagnie, mais qui a une façon plutôt tortueuse de s'en procurer une.
Solitaire, mélancolique, mais infiniment orgueilleux quand même.
Ah, il est terrible, il est abject, c'est vraiment le...
La toute-puissance...
C'est vraiment ouais. l'infâme méchant de film des années 50
ah,
qui
ouais,
se comporte
que...
comme ça, qui parle comme ça.
Oui, et alors, en tout cas, il collectionne donc les âmes dans des petits flacons, ça c'est intéressant. Et il y a quelque chose qui est quand même qui me pose une question, comment les albigeois qui arrivent en assez grand nombre, comment voient-ils cette arrivée ?
Alors, les albigeois qui arrivent, au début, il n'est pas au courant qu'ils arrivent. Et malheureusement pour lui, comme il utilise les illusions et les désirs les plus profonds et parfois pervers de l'humanité, il commence à ressentir une étrange lumière qui, pour lui, n'est pas du tout un bon signe. Et il se rend compte qu'effectivement, il y a une troupe d'albigeois qui est venue se cacher dans les murs d'Albérac. Et à partir de là... Les choses se corsent terriblement
oui.
pour lui.
Il n'a aucun impact sur eux.
Il n'a aucun impact sur eux. S'il va se promener auprès d'eux, il ne va rien faire. Ces gens ont une foi extrêmement pure et totalement dénués justement de désirs singuliers. Ils vivent pour le collectif, en très bonne entente, dans le partage. Et ça, c'est terrible parce que rien que d'y penser, rien que d'entendre leurs prières, ils commencent à se sentir terriblement affaiblis. Donc, il décide que ces gens-là ne peuvent pas rester dans sa ville, et qu'ils sont absolument insupportables, intolérables, et qu'ils l'empêchent de rendre son grand, terrible service à l'humanité, et que donc il ferait mieux d'avoir la politesse de déguerpir, aller se faire assassiner ailleurs.
Alors, quand vous dites, il se rend compte que les cathares l'affaiblissent, les albigeois.
Mmh.
Effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, lui se nourrit de tout ce qu'il y avait dans les êtres qu'il a rencontrés, donc en dehors de leur chair, évidemment, hein, mais c'est ce qui le revitalise, en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, avec les albigeois, ils ne se sentent pas très bien, et effectivement, il y a toujours une idée de lumière, il y a des gens qui ont une certaine lumière. Et là, arrivent deux personnages. Mmh. Et bravo, Manon Ségur, bravo à vous d'avoir fait... comme personnage important de femmes fortes, de jeunes femmes, différentes toutes les deux, mais courageuses, généreuses, des femmes très bien.
Tant mieux.
Alors, évidemment, je ne dirai pas à nos auditeurs quelle est celle que je préfère, mais parlons de la première qu'ils rencontrent. Il s'agit d'Hermine.
Ah, Hermine, c'est un personnage très particulier, un personnage que j'ai failli tuer pendant la rédaction, puis que j'ai gardé en vie, parce que je crois que son caractère était tellement fort qu'elle m'a convaincue.
On vous en aurait voulu.
Tout à fait, vous ne l'auriez pas su. Mais Hermine, c'est un personnage qui n'est... c'est une jeune femme qui est servante au château du Vicomte, qui est, disons, d'assez basse extraction, mais qui en veut terriblement parce qu'elle a vécu des épreuves affreuses. Heureusement, elle a une grande force en elle qui fait qu'elle y a survécu et qu'elle a essayé de se relever. Mais ces épreuves lui ont appris qu'elle voulait être plus dans la vie que la station qu'elle a de servante. Et si elle doit être plus dans la vie, elle a décidé que, quitte à manipuler, à séduire, à mentir, elle pouvait aller vers ces chemins-là. Et c'est ce que Cernin va utiliser contre elle, ce qui va créer une rencontre.
Alors, j'aimerais, Manon Figure, que vous nous lisiez un extrait qui concerne Hermine. Donc, c'est de la page 83 à la page 84.
Le démon resta devant elle, les mains croisées, le visage tordu par un rictus, dans l'idée un peu vaine de la mettre mal à l'aise. Il aurait été déçu qu'elle se laisse abattre par si peu, mais sa nature lui commandait tout de même d'essayer. Le destin lui avait vraiment envoyé des perles ces derniers jours du côté du règne d'Ève. Hermine finit de manger et prit une grande respiration. Comme elle en avait assez de soutenir son regard de littérale braise, elle noya ses yeux dans la danse de sa torche. J'ai préparé ma défense depuis ton dernier coup, démon. Si tu te nourris bien des émotions, des colères, comme l'ont dit ces deux idiots là-bas, tu n'auras qu'à me dévorer pour comprendre mon indignation. Déjà épuisé, sans même être attaqué, se moqua Cernin, ou tu préfères que je t'achève plus vite? J'ai prévu de te garder un peu, Hermine, pour que tu te bonifies comme vous bonifiez vos vins, pour que ta fureur augmente, que ta douleur continue. Ta défense, je l'écouterai quand tu seras seule, entravée de ma volonté, en pleurs à cause des courbatures et vidée de toutes émotions. Je veux l'avoir pour la fin, pour le moment où tu n'auras plus rien de vivant à m'offrir. Tu m'entends? Et toi, démon, tu m'entends? Te laisser me torturer, je suis bien obligée, mais ce ne sera pas en me calomniant. J'ai été une bonne mère, et puisque tu ne veux pas m'avoir maintenant, tu seras bien forcée de m'écouter. Il ricana. Hermine, tu crois me faire peur? Je peux coudre tes lèvres entre elles par ma seule pensée, si je le veux. Je peux te rendre aveugle ou te faire ressentir la plus grande douleur de ta vie. Je peux noyer tes oreilles de sang et verser le feu du monde dans ta bouche de jeunette. Je peux faire du pire venin un nectar sous ta langue. Quand je suis si bas, je suis capable de tout. Je n'écouterai pas une histoire qui ne m'intéresse pas. Mais elle t'intéresse, risqua-t-elle en haussant les sourcils. Tu aimes parler avec moi. Tu n'as pas eu de prisonnière avec de la répartie depuis plus longtemps que tu n'oses compter. Tu assumes beaucoup de choses.
Alors, avec Cernin, elle est insolente, elle est courageuse, elle ne plie pas et va connaître son premier échec en définitive.
Absolument. Cernin n'a pas l'habitude qu'on lui résiste et Cernin ne comprend pas qu'elle n'essaie pas, au contraire, de le supplier, de se mettre à genoux, de crier pour qu'il l'épargne. Elle n'en a rien à battre. Elle n'en a plus rien à battre de vivre. Elle a vécu des trucs vraiment horribles. Et si elle doit s'échapper, elle s'échappera. Elle fera ce qu'elle a prévu de faire. Mais si elle doit mourir, tant mieux. Oui. Et ça, il l'a encore jamais vu. Et il est absolument fasciné. Il ne comprend rien.
Oui. Tout d'un coup, il se sent faible. Alors elle, vous en avez dit un mot, elle a un passé très douloureux. Mm-hmm. Mais alors, ce qui a fait que lui a pu l'attirer dans ce cloître et vers ce puits, mm-hmm. c'est que elle a envie, elle a un désir de richesse, une envie de stabilité, peut-être une forme de pouvoir. C'est une femme forte et on le voit, lui, contrarié, énervé, désemparé finalement. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle encore? On va le voir tout au cours de l'ouvrage, parce qu'elle est là, elle est très présente, elle a de la répartie et du courage. Mais il y a également une autre femme.
Oui, Agnès.
Alors, tout autre genre.
Tout autre genre. C'est le jour et la nuit, très littéralement. Agnès est une parfaite cathare, donc ça veut dire qu'elle a reçu le consolamentum, qui était le sacrement des cathares. Et elle, elle prêche, elle voyage sur les routes avec ses compagnons. Elle est une créature extrêmement altruiste, qui parle de sa foi, qui aide les autres, qui soigne les gens, et elle ne pense même plus par elle-même. C'est quelqu'un qui ne pense plus au singulier, qui pense pour la communauté, et qui est d'une pureté encore jamais vue, et qui exhale une lumière absolument folle, ce qui met Cernin terriblement en rogne.
Oui, alors Agnès, donc une parfaite, et quand elle entre dans... Elle entre dans son cloître. Et en fait, ce que vous dites dans cet ouvrage, c'est qu'elle n'a aucun regret, aucun désir. Elle va en paix.
C'est tout à fait ça. Elle entre en paix. Elle voit un jardin, un charmant endroit. Et c'est la toute première personne qui rentre dans ce cloître qui n'a pas été attirée par Cernin. Et donc, Cernin n'y comprend absolument rien.
Oui. Elle est inattaquable. Évidemment, elle a une histoire tragique, elle aussi.
Mmh. Oui, elle a une histoire terrible, mêlée de croisades, de pillages, de morts. C'est un personnage qui a été orpheline très tôt et qui n'a jamais eu sa propre vie, ni vraiment ses propres désirs.
Oui, et là, c'est là où vous parlez des routiers. Je ne savais pas que les routiers étaient des mécréants qui attaquaient les gens.
Voilà, c'était plus ou moins les mercenaires du Moyen-Âge, les routiers.
Voilà, nous allons faire une seconde pause musicale. Alors Manon Ségur, vous pouvez l'annoncer ?
Alors tout à fait, parce que c'est un morceau qui est très particulier. Plusieurs morceaux ont été composés pour le livre, enfin deux morceaux techniquement ont été composés pour ou en hommage au livre. Et là, c'est un thème qui a été composé par un ami qui s'appelle Joxan de Jasmin. Donc c'est un thème qui s'appelle Le cloître des vanités et qui est pas tant le thème du cloître en lui-même qu'un thème qui correspond bien à Cernin avec toute son obscurité.
Ah, quelle chance vous avez eue. Nous l'écoutons.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous sommes toujours en compagnie de Manon Ségur qui vient de nous faire écouter un morceau créé par un de vos amis, Manon, c'est
tout
ça,
à fait.
Pour cet ouvrage. Et effectivement, en l'écoutant, on imagine bien ce cloître dans la semi-obscurité, ce puits, ses profondeurs, ses lieux clos, ses angoisses qui règnent aussi, que fait régner d'ailleurs Cernin, ce diable, ce, on peut pas dire oui c'est un diable, c'est un démon. Et donc un des êtres finalement que je trouve lumineux, des femmes lumineuses, chacune à sa manière. Hermine, que nous avons vue, plus proche de la terre, c'est une terrienne. Et Agnès, une parfaite, qui est albigeoise, donc, et qui est en accord avec elle-même. Et je pense que le fait d'être en accord avec elle-même lui donne déjà un pouvoir. Elle est pure, inattaquable, et elle est belle.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, ce pauvre Cernin, déjà bien affaibli par l'arrivée des cathares, rencontre...
Et par la présence d'Hermine.
Alors, Hermine lui casse déjà profondément les pieds, mais il arrive encore à s'en débrouiller. Et puis, il rencontre cette Agnès qui n'est pas effrayée par lui, qui n'en a absolument rien à battre, qui lui parle comme s'il était n'importe qui, alors qu'il s'est fait un plaisir de parader en seigneur tout-puissant qui fait peur. Et c'est pareil que pour Hermine, il voit cette femme qui n'en a absolument rien affiché de qui il veut être, de son paraître, et qui voit à travers lui, et qui voit sa mélancolie, sa tristesse, et qui il est vraiment.
Et il peut pas laisser ça arriver de toute façon. Il lui faut être puissant. Et s'il lui faut être puissant, il faut la détruire.
Oui, et alors le fait qu'elle le voit tel qu'il est, parce que visiblement, dans un premier temps, elle ne lui accorde aucune importance. Et ça aussi, pour lui, c'est tout à fait désobligeant. Elle va donner sa leçon, sa vision de la vie. Vous pouvez nous en lire un extrait, Manon ?
Tout à fait, oui. Un jour, un ancien routier est arrivé chez nous, blessé au ventre, comme je l'avais été. Il s'est tout de suite abandonné à mes soins, et moi, j'ai tout de suite songé à le tuer. Il n'était pas de ceux qui m'avaient fait tant de mal, mais il ne valait sans doute pas bien mieux pour celle que j'étais à l'époque. Je me suis rendu compte au moment de le poignarder avec une dague que je lui avais dérobée, que j'étais incapable de briser sa confiance et de faire du mal à quelqu'un. Je me suis effondré sur lui en pleurs, et je l'ai supplié de me pardonner. Il m'a dit qu'il me pardonnait, et m'a demandé de le pardonner en retour s'il m'avait jamais fait de mal. La sensation de pardon désintéressé, gratuit et divin emplit mon cœur de joie. À partir de ce moment, je mis toute ma bonne volonté à comprendre les dogmes de l'Église albigeoise. La colère, la jalousie, la haine sont des émotions qui nous sont envoyées par des entités matérielles, créatrices d'inégalités profondes, qui nous veulent du mal et méprisent les côtés les plus beaux de l'humain. Le pardon, l'amour céleste, la communion spirituelle et la joie de la prière sont autant d'impressions qui nous font du bien et nous éloignent du mal premier. Elles ne peuvent pas nous atteindre physiquement, pas nous heurter. Elles ne peuvent que nous élever, nous donner du plaisir. Considérez que nous sommes à laisser dans une sorte d'antichambre de l'enfer. Ce sont nos âmes qui doivent s'en échapper, en se détachant de tout ce qui pourrait les ralentir dans leurs ascensions. C'est avec cette vision que nous déconseillons, par exemple, d'emmener des enfants dans ce monde. Ils sont trop purs pour mériter de vivre entre le combat et le désespoir. C'est aussi avec cette vision que nous encourageons nos frères nobles à faire vœu de pauvreté et à découvrir une vie plus sincère qui leur apportera tranquillité et calme. Nous sommes tous égaux devant Dieu, et il nous aime exactement de la même façon que nous soyons des princes ou des mendiants. Mais le démon qui a créé la terre et ses impuretés veut nous faire penser l'exact contraire. Il veut nous donner de l'envie, nous faire nous attacher à une beauté simplement physique et personnelle pour nous rendre aigris et petits. Il veut nous encourager à écraser les autres pour monter toujours plus haut, gagner toujours davantage, sans se préoccuper de notre prochain.
Un très beau passage encore, oui, et en écoutant ce que vous lisiez, en écoutant ce dont vous parliez là, du pardon, on ne peut pas s'empêcher de rattacher cela à des tas d'événements actuels. Mm-hmm. Par exemple, je pense à ce procès du Bataclan dont on parle beaucoup. Hein. Évidemment, le pardon, de quoi s'agit-il ? Qui doit le donner ? Qui le demande ? C'est toute une question que l'on peut, des questions auxquelles on peut réfléchir. On voit donc le désarroi de Cernin. Il ne veut pas laisser entrer en lui la lumière. Parce que qu'est-ce qui se passe en lui ?
Il se passe qu'il commence déjà à douter de son mode de vie. Oui. Et plus il doute, plus il décide d'être hargneux et féroce. Et plus il est hargneux et féroce, plus il doute. Et à partir de ce moment-là, bien qu'il fasse tout pour l'empêcher d'entrer, la lumière va commencer à se faufiler en lui, notamment par la personne d'Agnès.
Oui, voilà, parce qu'il y a une attirance, il voit quand même ce qu'elle est. Mmh. Et il y a une attirance de sa part. Et alors évidemment, il va se faire même le chevalier. Il y a un vrai méchant, Gauthier de Rougerou, c'est ça, celui qui est à l'origine des malheurs d'ailleurs d'Hermine et d'Agnès finalement. Oui. Et là, étonnamment, il va lutter contre ce méchant, ce mal, cet homme maléfique, pour venger ces personnes.
Tout à fait, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un antagoniste qui soit humain et purement humain, avec des fautes purement humaines, parce qu'en fin de compte, une fois que Cernin laisse entrer la lumière en lui et l'amour, il se rend compte que, bien qu'il ait fait des choses atroces, il a toujours la possibilité d'aller contre le pire, parce que nous avons toujours la possibilité d'aller contre le pire, et il a aussi cette envie de protéger les gens qu'il aime, bien malgré lui.
Oui. Et ce qu'on voit finalement dans votre ouvrage, c'est que le bien finit par entamer le mal. Il y a ça, et peu à peu, il y a une histoire de rédemption. Alors, on ne va pas en dire plus, parce que le roman continue, il y a plein de rebondissements, mais ce qui est très drôle, je trouve, parce qu'il y a des moments drôles, et en particulier avec Hermine, à qui il va demander de lui apprendre comment il doit être pour se faire aimer.
Tout à fait. Hermine a une personnalité très chaleureuse et très ouverte, et il décide de négocier les conditions de sa captivité avec elle pour approcher justement les cathares à un moment où il va encore les détruire. Et pour les approcher, il doit être beaucoup plus humain et beaucoup plus ouvert. Donc il décide de lui dire « Eh bien écoute, j'ai besoin d'aide, je déteste l'admettre, mais il va bien falloir que quelqu'un m'aide. »
Il devient humble.
Il devient humble, mais extrêmement aigri par son humilité. Et donc, il cherche cette aide qu'il va rencontrer plus ou moins du côté d'Hermine. Et ça va donner une transformation tout à fait inédite.
Voilà une écriture pleine d'imagination, des descriptions, mais des actions aussi, des réflexions. On a plaisir à lire votre ouvrage. Et de temps en temps, il y a une expression, un tempo, une vivacité qui rappelle votre jeunesse. Et je trouve ça tout à fait plaisant. En tout cas, bravo. C'est un premier livre, Manon Ségur. Ben, j'espère que vous allez continuer.
Je vous remercie, Monique. Je vais essayer.
Voilà. Je rappelle à nos deux éditeurs qu'il s'agit donc du Cloître des Vanités, écrit par Manon Ségur aux éditions...
Grain de Chimère.
Voilà. Merci, au revoir.
Au revoir.